Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. CBD, trois lettres pour désigner le cannabidiol. Le CBD, c'est une substance aux propriétés relaxantes issue du cannabis. Le CBD n'a pas d'effet psychoactif et n'est donc pas addictif comme le THC ou tétrahydrocannabinol, issu de la même plante et qui reste interdit. Il y a quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé d'interdire la vente de CBD produits dans les autres pays européens. En France, le CBD dont la consommation et la distribution se répandent n'est donc pas interdit, mais pas franchement autorisé non plus. Ce flou juridique ne facilite pas la vie des producteurs et des distributeurs. CBD, faut-il légiférer ou laisser faire? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Aurélien Delecroix. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat professionnel du chanvre et fondateur de Greenleaf Company. Et aussi Jean-Pierre Coutron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie à la consultation jeunes consommateurs de l'association Opelia de Boulogne-Billancourt et porte-parole de la Fédération Addiction. Et enfin, Ludovic Mendès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche du département de la Moselle, rapporteur de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. On va peut-être d'abord tenter de se mettre d'accord sur ce dont on parle. J'ai rapidement présenté le CBD, mais comme je ne suis pas un spécialiste, on va s'adresser à ceux qui savent. Aurélien Delecroix, le CBD, c'est quoi et quelles sont ses utilisations?
Alors, le cannabidiol, c'est une molécule qui est considérée comme sûre et bien tolérée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, selon laquelle les preuves actuelles montrent que le cannabidiol n'est pas susceptible d'être dangereux en cas de surconsommation, ni de créer une dépendance. Et aucune preuve d'usage récréatif du CBD ou de problèmes de santé publique n'ont pu être associées à sa consommation. Cependant, il faut distinguer deux usages du cannabidiol. Il peut y avoir un usage médical du cannabidiol, donc cet usage est en rapport avec une pathologie, et les doses concernées sont des doses assez importantes. On peut distinguer un second usage du cannabidiol, un usage de bien-être, comme complément alimentaire par exemple, où là, il n'y a pas de rapport avec une pathologie, c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé effectivement pour soulager une douleur ou pour venir effectivement dans un acte de guérison. Il est utilisé pour maintenir la personne en bonne santé ou améliorer le confort de la personne en question.
Ça prend quelle forme, Aurélien Delecroix? Ça se consomme comment?
Alors, les produits à base de cannabidiol, on concerne plein de typologies de produits différentes. On va avoir effectivement tout ce qui concerne les compléments alimentaires, donc sous forme d'huile sublinguale, sous forme de gélules. On va aussi pouvoir en retrouver du coup dans de l'alimentation courante, sous la forme par exemple de quenilles, vous savez, des petits oursons en gélatine par exemple. On va pouvoir le retrouver dans des cigarettes électroniques, donc sous forme de liquide. Et on va pouvoir également le retrouver dans des crèmes cosmétiques.
Jean-Pierre Coutron, ça paraît un petit peu contre-intuitif de se dire qu'un produit issu de la même plante que celle qui donne un psychotrope assez puissant soit sans effet notable. On va donc s'adresser à vous, le spécialiste en addictologie. C'est un produit réellement sans danger? C'est comme une tisane qu'on prendrait le soir? Ça fait quoi?
Ça vient d'être assez bien expliqué. Ouais. C'est-à-dire que dans une plante, il y a plusieurs cannabinoïdes, il y a plusieurs composés. Quand on prend de la cocaïne, on extrait la cocaïne et il y a tout un tas d'autres composés de la cocaïne qu'on laisse de côté. Quand on prend le cannabis, si on prend le THC qui est l'autre produit dont on parle beaucoup, l'autre cannabinoïde dont on parle beaucoup, on a ces effets qui ont valu la politique de prohibition du cannabis. Et quand on prend du CBD, on a d'autres effets. Voilà. Alors le débat, c'est ces autres effets. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un volet médical qui vient d'être rappelé, et ils ont probablement, il faut le dire, un effet possible du côté du bien-être, du confort, et c'est un vieux débat dans la médecine. Il y a un psychiatre qui s'appelait Édouard Zarifian qui, dans les années 96, avait semé le trouble avec un livre qui s'appelait Le prix du bien-être, hein, et où il alertait les labos pharmaceutiques sur l'importance de faire la différence entre soigner une maladie et apporter du confort. Voilà. Donc le CBD permet de se reposer cette question. Il faudra se la reposer de façon intelligente Et il y a tout à fait moyen de se la poser de façon intelligente.
Ludovic Mendes, je voudrais qu'on soit tout à fait clair. Le CBD, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le cannabis thérapeutique dont les essais qui concernent quelques milliers de personnes débutent en principe ce mois-ci? Est-ce que ce sont les mêmes substances ou la même démarche?
Ce n'est pas la même démarche. Après, la substance se retrouvera dans le produit thérapeutique, puisqu'on aura besoin et de CBD et de THC. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que la même plante peut fournir différentes possibilités d'usage, et dans le thérapeutique, on aura besoin des deux. Le CBD dont on parle là maintenant, donc le chambre bien-être, est un produit qui n'est pas du tout thérapeutique, qui n'a pas visée thérapeutique, c'est du produit de bien-être qu'on peut acheter dans des CBD shops, dans des bureaux de tabac ou dans d'autres lieux, qui n'ont pas la même logique que celui du thérapeutique, qui lui est très encadré, très accompagné et très surveillé.
Ludovic Mendes, je reste avec vous. Quel est actuellement donc l'état de la législation concernant le cannabidiol? On est dans un flou législatif?
On est dans un flou, alors pas législatif, c'est un décret, c'est l'arrêté de 1990 qui encadre en fait la non-utilisation, la non-consommation et la non-transformation de la fleur de cannabis, qui est seulement autorisé de traiter la tige et les graines en fait de la plante de chambre. On parlera de cannabis et de chambre qui est exactement la même plante, hein, cannabis étant le nom scientifique de ce que nous on appelle le chambre. Comme ça qu'on puisse être clair pour les personnes qui nous écoutent en ce moment. C'est très flou parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Par contre, on a le droit aujourd'hui d'importer ou de créer des produits à base de CBD, de synthèse, et de le vendre sur le marché français. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une loi, une législation plus adaptée, moins floue pour nos entrepreneurs et pour les consommateurs, étant donné qu'aujourd'hui, la majorité des produits viennent de l'étranger et sont rarement travaillés sur le sol français, alors qu'on a la capacité de créer une filière française à part entière.
C'est-à-dire que la production de chanvre, elle est importante en France, à l'heure actuelle déjà?
Elle est très importante. On est premier producteur européen, troisième mondial depuis maintenant 2 ans, alors qu'on était deuxième mondial il y a encore 2 ans, mais le Canada et les États-Unis ont mis beaucoup d'investissements, comme on le sait, parce que le marché du cannabis aux États-Unis et au Canada est différent de chez nous. Les Chinois sont en train de nous rattraper tout doucement, et Israël fait énormément de recherches sur le sujet du cannabis. Donc on a un véritable savoir-faire, non seulement sur la production, mais sur l'extraction, et sur la transformation.
Aurélien Delecroix, la situation actuelle de la législation, est-ce qu'elle vous convient ou est-ce que vous voudriez que ça évolue?
J'en rejoins tout à fait les propos de Ludovic Mendes. Aujourd'hui, on a quelque chose qui n'est pas du tout conforme à nos attentes, dans le sens où on estime que ce marché doit être régulé. Donc pour un syndicat professionnel, des fois, ça peut paraître assez anodin. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien, par exemple, qui va réglementer les étiquetages. Il n'y a rien qui va réglementer la traçabilité. Il n'y a rien qui va réglementer les traces de THC dans les produits finis. Il n'y a rien non plus qui va venir réglementer le taux de CBD maximum présent dans un produit. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler pour justement éviter tout un tas de mauvaises pratiques. Il faut aussi pouvoir rappeler très fortement que ces produits-là, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'allégations thérapeutiques sur ces produits. Il faut faire très attention. Il faudrait pouvoir encadrer aussi par la loi le fait qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec le cannabis récréatif ou avec le cannabis médical. Donc, à l'heure actuelle, en fait, la loi n'est pas satisfaisante. On sait que les autorités travaillent justement à une modification de l'arrêté de 90 pour pouvoir valoriser la feuille et la fleur de chanvre en France. Mais je pense qu'il faut même aller plus loin et justement vraiment donner des directives très claires sur justement ces attendus d'étiquetage, de traçabilité, de seuil de principes actifs dans les produits finis, pour garantir vraiment aux consommateurs une vraie transparence et qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qu'ils vont consommer et qu'il y ait aussi des vraies précautions entre guillemets d'usage. Il ne faut pas oublier que le CBD, par exemple, peut avoir des interactions avec d'autres médicaments. Donc nous, ce qu'on demande, c'est justement que toutes les précautions emploi, elles soient bien inscrites, par exemple, sur les étiquetages. Il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre, c'est que on a lu ces derniers temps effectivement un certain nombre de propos qui disaient attention, le chanvre bien-être, son usage est détourné parce que il y a pas mal de patients qui se dirigent vers ces produits-là, mais en fait c'est malheureusement une réalité. Tant qu'il n'y aura pas des médicaments à base de cannabinoïdes qui seront mis sur le marché et que l'expérimentation sur le cannabis médical n'aura pas touché sur une généralisation de la disponibilité du cannabis médical, forcément, il y aura le détournement d'usage d'un certain nombre de ces produits. Et c'est dommageable parce qu'on estime qu'effectivement, ce qui doit être dans la catégorie du médical doit rester dans la catégorie du médical et que les patients doivent pouvoir bénéficier d'un parcours de soins tout à fait adapté et encadré.
Jean-Pierre Coutron, cette confusion entre le médical, le non-médical, la distribution de ce produit, tout ça, ça doit être davantage expliqué, davantage encadré. L'usage doit être expliqué davantage.
Oui, enfin, moi je ne peux que soutenir. Alors on est trois, avec des postures différentes, hein, un député, quelqu'un qui représente la filière industrielle, et moi qui représente les acteurs du soin. Et c'est quand même assez intéressant, on est plutôt d'accord, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'objectif médical avec la logique bénéfice-risque d'un médicament qui est donné sur une durée, généralement, on est conscient des effets secondaires, mais on sait la cible que l'on peut avoir, et puis des produits qui sont alors à des dosages différents, parfois avec des compositions différentes, c'est ça qui rend un tout petit peu compliqué, mais là il y aurait de quoi avoir des règles assez claires avec la question de l'étiquetage, hein, avec des formations de ceux qui les vendent, avec des interdits peut-être qui n'auraient pas besoin d'être des interdits de prohibition, hein, des interdits pour des classes d'âge. Voilà. On peut tout à fait réfléchir de façon intelligente à distinguer la pratique et l'usage médical et qui a des règles très strictes de fabrication, parce que là, on doit être dans une démarche très précise, et puis le produit grand public, qui lui aussi a des règles, parce qu'il faut éviter un certain nombre de mauvaises pratiques commerciales, hein, et on le voit par exemple avec le vapotage, on l'a vu, on a eu le même problème avec les boissons énergisantes, hein. Il faut se rappeler qu'en 2008, les boissons énergisantes étaient interdites à la vente en France, hein. Et regardez le marché que ça a pris. Alors c'est sur des effets un peu différents que le CBD, mais quand même, hein, ça devrait nous faire réfléchir. Donc on a quelques modèles en ce moment de produits qui arrivent. Et puis, permettez-moi de rajouter une dernière chose, je vais peut-être pas trop long, moi, mais le CBD, il vient sur le marché du bien-être. C'est un marché qui est un peu flou, le bien-être. Je vous renverrai, par exemple, à de très beaux travaux historiques de Vigarello sur l'histoire de la fatigue. Le bien-être, il arrive aujourd'hui dans les nouveaux modes de vie qu'on a, dans les stress qu'on a, dans les angoisses qu'on a, dans la société d'aujourd'hui. Voilà, il y a une maladie qui a disparu, la neurasthénie, il y a des maladies qui arrivent, le stress et des comportements de confort quotidien qu'on veut, le bien-être. Et qu'est-ce qu'ils trouvent comme concurrent? Ils trouvent le tabac et ils trouvent l'alcool. Et après tout, estimer les risques du CBD au regard des risques de l'alcool, c'est aussi une démarche de santé publique. Voilà. Et légiférer de façon intelligente pour réguler le marché du CBD ne serait pas forcément une catastrophe sanitaire.
Ludovic Mendès, votre démarche, c'est une démarche de santé publique ou d'organisation d'une filière, ou un peu des deux?
C'est une démarche d'information. C'est de démontrer, c'est ce qu'on a fait avec la mission d'information cannabis, hein, avec mes collègues Jean-Baptiste Moreau et Caroline Gervier, c'est d'informer sur les différents usages et impacts du cannabis. Et c'est pour déconstruire un peu ce fantasme qu'il y a autour du sujet du cannabis. Parce que dès qu'on parle de cannabis, on parle de récréatif. Et on se rend compte, les études le démontrent, que ça a une vertu thérapeutique, ça a une vertu de bien-être. Donc nous, de notre côté, c'est d'informer, après de faire en sorte qu'on puisse structurer cette filière française et l'accompagner, parce qu'on a un véritable savoir-faire. Et j'en ai, comment dire, alors c'est pas Aurélien Delcroix qui me dira l'inverse, mais on rencontre tellement d'entrepreneurs français qui se sont établis aux frontières du territoire national pour pouvoir produire ces produits, que ce soit les huiles sublinguales ou les autres produits aujourd'hui qu'ils vendent en plus sur le territoire national ou à l'étranger, me pose question et pose problème. On est presque à la limite d'être à l'inverse de la liberté d'entreprendre. Donc on est dans cette démarche-là d'accompagner la filière, certes, et en même temps de structurer un message clair autour des usages du cannabis.
Aurélien Delcroix, vous voulez ajouter quelque chose? Il s'agit vraiment d'organiser le marché et la production et la filière française. C'est l'idée.
Oui, tout à fait, c'est l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fois, on demande effectivement un cadre clair pour la commercialisation des produits. On demande aussi, à l'inverse, un certain nombre de libertés, une certaine liberté d'entreprendre qui passe par l'ouverture du variété de catalogue qui est aujourd'hui disponible à d'autres types de variétés. On demande effectivement, enfin on soutient la proposition de l'Europe de passer de 0,2 à 0,3% de THC, puisqu'on sait que le potentiel CBD qui va être possible en passant cette barrière du 0,2 au 0,3, il va être décuplé. Donc si aujourd'hui on veut être concurrentiel face à des marchés, par exemple, face au marché américain sur lequel le chanvre, lui, est déjà réglementé à 0,3% de THC, il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures qui vont permettre aussi un peu plus de mouvement, de marge de manœuvre pour que cette industrie puisse libérer ses énergies. Donc on est dans un double mouvement, on demande effectivement plus d'encadrement sur un certain nombre de points, et on demande à l'inverse à pouvoir libérer les énergies, et ça passe par effectivement l'accès à des variétés, à un nombre de variétés plus important, le rehaussement du taux de THC de 0,2 à 0,3%, voilà, à avoir accès à des itinéraires culturaux plus propices et qui se rapprochent plus effectivement de ceux qui sont aujourd'hui de ceux de la filière plante à parfum aromatique et médicinal plutôt que celle du chanvre industriel, parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de chanvre, alors je le rappelle très rapidement, mais pourquoi on parle de chanvre des fois plus que de cannabis? Chanvre, ça désigne communément les variétés de cannabis sativa, de cette espèce-là, qui ont toujours poussé en France et en Europe et qui n'ont jamais été psychotropes, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu de propriété enivrante. Donc nous, on a une belle histoire avec cette plante. On en a fait du textile, on en a fait les cordes de nos navires, on l'a toujours utilisé en alimentation animale et humaine. Voilà, on a vraiment, c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir, mais avec lequel on a un vrai héritage, on partage une vraie histoire avec le chanvre. Aujourd'hui, effectivement, quand je parle de libérer ses énergies, il faut expliquer que la filière effectivement sur laquelle on est leader aujourd'hui en Europe et que mentionnait Ludovic Malef, c'est une filière du chanvre industriel, c'est-à-dire que le chanvre est cultivé pour sa fibre, il ne l'est pas pour ses principes actifs. Et basculer de cette filière du chanvre industriel vers du chanvre à principe actif, valorisé pour sa feuille et sa fleur, ça implique un certain nombre de marges de manœuvre qu'on estime nécessaires si on ne veut pas avoir une filière mort-née, en fait.
Ludovic Mendès, il y a donc une forme de distorsion de concurrence avec d'autres pays européens. Vous parliez du Canada et des États-Unis tout à l'heure, mais ça se passe aussi à nos frontières?
Ça se passe à nos frontières, hein, quand on regarde le marché belge, italien, espagnol, allemand. La preuve, c'est qu'il y a quand même eu un arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne contre la France, ce qu'on appelle l'arrêt Canavap, où la France a été reconnue, pas dans l'illégalité, mais qui allait à l'inverse des traités européens, de la libre circulation des marchandises. Donc on est aujourd'hui, il n'y a pas de libre concurrence sur le marché français, et obliger nos entrepreneurs à nous de faire du CBD de synthèse, alors qu'on peut le faire différemment, et je rappelle que ça coûte en plus plus cher de le faire, ça n'a pas de logique. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on essaie de travailler avec la MILDECA, hein, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi.
La MILDECA, qui est l'aide de lutte contre la drogue et les toxicomanies, les addictions.
Jean-Pierre Coutron est venu à votre aide.
Et on travaille avec eux justement pour réécrire cet arrêté de 1990 et de faire en sorte de créer vraiment cette filière française. Là où Aurélien Descroix a raison sur un point, c'est que notre filière aujourd'hui, elle est industrielle. On en fait du plastique, on en fait du textile, et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui nous disent on est capable de traiter cette fleur justement pour en faire un produit fini différent, étant donné qu'il y a un savoir-faire quand même, mais il n'est pas exploité. Donc c'est à nous de leur permettre de pouvoir exploiter cette fleur de chanvre ou de cannabis, on l'appellera comme on veut, afin d'accompagner ce marché français. Et puis pour la santé publique, on a des produits aujourd'hui qui viennent des pays en dehors de l'Union européenne, qui ne sont pas intracommunautaires et qui posent des questions sur la réalité des produits à l'intérieur. Et des fois, il y a un taux de THC supérieur à ce que l'Europe autorise, des produits qui peuvent venir d'Ukraine, du Canada ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là, il n'y a personne qui regarde dans le détail. Par contre, quand c'est un marché européen et qu'il arrive sur le sol français, on va vraiment fouiller pour vérifier le taux de THC. J'ai un exemple encore arrivé ce matin où on explique à l'entrepreneur que le taux de THC est supérieur à zéro. Mais c'est normal, il y aura toujours des traces de THC dans des produits de CBD, étant donné que c'est issu de la même plante.
Jean-Pierre Coutron, ce discours sur la libéralisation ou la façon de libérer les énergies et une industrie, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes un soignant.
Vous me tendez la perche, c'est la partie à la fois avec laquelle intellectuellement je pourrais pas être contre, mais en tant que soignant, c'est le discours avec lequel on s'est servi pour démonter la loi Evin. C'est le discours de la prééminence de l'économique sur la santé publique, et c'est un discours qui, pour nous, a un certain danger. C'est-à-dire, autant on est contre la prohibition des drogues, autant on est contre ce que disaient Ludovic Mendès et Aurélien Descroix, l'espèce de fantasme sur le cannabis qui serait le drame absolu, autant ne pas équilibrer la nécessaire adaptation, modernisation de la loi, ne pas équilibrer, je l'entends tout à fait, l'intérêt d'avoir plutôt une production française qu'une importation étrangère, ou en tout cas de travailler avec nos collègues européens, mais ne pas l'équilibrer avec une vraie politique de santé publique, ce serait dommage. Or, la France, généralement, sur ce domaine-là, elle fait toujours, toujours, toujours bien moins bien que ses voisins. C'est-à-dire qu'on nous vend qu'on va faire la mise à niveau économique, mais on n'arrive jamais à obtenir qu'on fera la mise à niveau au niveau des politiques de prévention, au niveau des régulations dans l'intérêt de la santé publique. Je voudrais juste donner un petit exemple, là où pourquoi nous, on peut avoir une petite hésitation, non pas pour empêcher l'évolution, mais pour dire ne faites pas n'importe quoi. On parle souvent des effets pharmacologiques des drogues. Mais il y a un autre effet dans les substances qui est un effet de substitution. Voilà, vous pouvez prendre un livre pour ne pas penser à un problème. Ça ne va pas amener à prohiber les livres, hein, mais ça va avoir un effet de substitution. Et on sait que, par exemple, voilà, la lecture peut parfois distraire. On a le même problème en ce moment avec des écrans. Et on commence à voir des gens qui nous disent « Oh là là, attention, les écrans créent des addictions. » Bon, les industriels des écrans hurlent en disant « Mais vraiment, les addictologues, vous êtes casse-pieds. » Voilà, hein. Alors, ça ne crée pas forcément des addictions au niveau pharmacologique, mais ça crée des habitudes de substitution. On ne se coltine plus un problème, on va tout de suite chercher une solution pharmacologique, même à bas bruit. Cette deuxième partie de l'addiction ne justifie pas la prohibition, ne justifie pas d'empêcher d'installer le marché, mais demanderait, et je crois l'entendre en tout cas chez un certain nombre de nos interlocuteurs, premièrement, une vraie politique de régulation, avec les étiquetages, tout ce qui était dit, des prix, des boutiques, des gens formés. Deuxièmement, une vraie politique de prévention. Et ça, je peux vous dire, pour avoir été auditionné pendant un certain nombre d'années, par un certain nombre de personnes dans les commissions de l'Assemblée nationale, je sais déjà qu'on l'aura pas. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est inquiétant. Et ça peut avoir un effet boomerang, comme ça avait eu avec d'autres produits, qui ensuite se retrouvent dans des postures où ils n'auraient pas dû être.
Alors, on va laisser nos autres interlocuteurs vous répondre. On va commencer par Aurélien Delecroix, le producteur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux craintes, hein? Ce sont des craintes de Jean-Claude Coutron.
Oui, elles sont légitimes. Attention, hein, c'est pas... les craintes sont légitimes. C'est peut-être pour ça que je vais clarifier un peu mon propos. Quand je parlais de libérer les énergies, je parlais surtout de libérer les énergies pour le monde agricole, en fait. Pour ce qui est, en fait, des produits finis qui vont se retrouver sur le marché, on est tous sur la même longueur d'onde. Et je pense que les choses sont assez claires de ce point de vue-là, des étiquetages, des taux maximum aussi de CBD dans les produits finis, des seuils de THC bien définis. Là-dessus, on n'a pas de demande en fait particulière. Ou en tout cas plutôt la demande c'est plutôt effectivement d'avoir un cadre très clair et une filière très encadrée. Là où je parle de libérer les énergies, c'est plutôt effectivement sur la partie du monde agricole. Il faut savoir que aujourd'hui cette culture du chanvre CBD elle attire énormément d'agriculteurs qui sont en recherche de valeur ajoutée, qui sont en recherche de reconversion. Il n'y a pas une seule journée qui passe aujourd'hui sans qu'on ne soit pas sollicité par des agriculteurs qui sont intéressés par développer cette filière. Donc à la fois effectivement on se dit aussi que de ce point de vue là il faut encadrer. On a proposé la création d'un observatoire du chanvre pour effectivement pouvoir bien comprendre ce qui se passe, qui va cultiver quoi, dans quelle quantité, pour quel marché, etc. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que pour autant, il faut pouvoir faire évoluer la réglementation actuelle qui ne permet pas un certain nombre de pratiques agricoles qui sont nécessaires à mettre en place pour avoir une belle filière du chanvre CBD en France. Et je pense effectivement à des choses toutes bêtes. Alors c'est peut-être un petit peu technique et je m'en excuse, mais la densité de semis. Aujourd'hui, la seule densité de semis qui est permise, c'est pour faire du plein chanvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un plant en mètre carré. Malheureusement, ces itinéraires, enfin malheureusement, en tout cas, c'est ces itinéraires techniques-là dont on a besoin ces itinéraires culturaux pardon, dont on a besoin pour justement aller chercher de la forte production de principes actifs. Après, pour ce qui est du produit fini, la question, voilà, c'est vraiment décorrélé, c'est vraiment deux sujets totalement différents.
Ludovic Mendès, Jean-Pierre Coutron se disait dans sa précédente intervention un petit peu dubitatif, voire déçu par ce qu'il avait entendu quand il avait été auditionné à l'Assemblée nationale.
Alors, je peux l'entendre, mais que M. Coutron sache que je partage son point de vue sur la prévention. C'est aussi pour ça qu'on a lancé cette mission d'information. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué lorsque j'ai rencontré des personnes dans des boutiques de CBD Shop ou des associations de parents qui accompagnent leurs enfants avec des problèmes de santé type sclérose en plaques, Parkinson et autres. C'est qu'ils me disent toujours qu'ils consommaient en fait du cannabis récréatif pour des vertus de bien-être ou thérapeutiques. Et il n'y avait pas de prévention sur le sujet. C'est même très dangereux parce qu'ils consommaient des produits où on était incapable de connaître le taux de THC et de CBD, un produit qui était acheté dans la rue, avec aucun suivi, et on ne sait même pas comment il a été traité. C'est de la prévention de notre côté sur ce sujet-là. Après, il y a toute la prévention sur le risque mental. D'ailleurs, on parle souvent des mineurs, mais il n'y a pas que les mineurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est facile de trouver un produit de substitution, qu'il soit une drogue, qu'il soit demain du CBD, qu'il soit de l'alcool et d'autres choses. Il y a un risque potentiel et à partir de là, il faut qu'on puisse le développer. On puisse développer la recherche. Mais on ne peut pas développer la recherche en l'état si on n'a pas un cadre législatif adapté. Qui va faire de la recherche aujourd'hui médicale ou de la recherche scientifique sur le sujet du cannabis en France s'il ne peut pas utiliser la fleur de cannabis, s'il ne peut pas planter justement du cannabis au mètre carré pour faire des tentatives et des essais, comme on le fait en Israël, comme on le fait dans d'autres pays. On est en retard sur tout le sujet du cannabis. Le seul sujet sur lequel on n'est pas en retard, c'est le principe de précaution et de dire qu'il est impossible d'utiliser la fleur de cannabis. Et c'est ce qui nous pose problème, parce qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement que le risque est faible et comment on peut limiter l'impact justement sur l'addiction. Mmh. On n'est pas en capacité de le faire parce qu'on ne peut pas faire de tests à grande échelle aujourd'hui en France sur ce sujet-là.
Mmh. Aurélien Delecroix, à quelles oppositions vous heurtez-vous ? Est-ce qu'on vous dit c'est la même plante, donc il y a des craintes que ce premier pas entraîne un autre vers la légalisation du THC tout simplement ? Est-ce que c'est ça le nœud du problème ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a toujours cette peur de l'amalgame. Nous, on est vraiment très vigilant par rapport à ça, en tout cas pour ce qui concerne notre secteur. On n'est pas du tout dans cette idée de banaliser non plus la consommation de cannabis récréatif. On fait bien le distinguo. Donc ce qui bloque, c'est ça, et éventuellement un autre sujet qui me concerne aussi en partie, puisque je suis aussi force de l'ordre dans la réserve.
Oui, vous êtes gendarme de réserve, hein, j'ai oublié de préciser.
Tout à fait. Et ça, c'est une vraie préoccupation des autorités, et nous, on est force de proposition là-dessus. La question, c'est comment on ne va pas perturber la lutte contre le trafic de stupéfiants. Puisque c'est à l'ordre du jour aujourd'hui des autorités, peut-être que ça changera un jour et voilà, il y a certains travaux de la mission d'information parlementaire qui sont en cours et qui vont peut-être apporter une lumière sur ces questions-là, mais aujourd'hui la temporalité des autorités fait que la lutte contre le trafic de stup, c'est une des priorités du ministère de l'Intérieur et effectivement la difficulté parfois à différencier ce qui va relever du stupéfiant de ce qui n'en relève pas, pose question, pose problème aux autorités. Et nous, on est force de proposition là-dessus. On a des projets de certification, de licence, qui permettent de pouvoir tracer un produit assez facilement et de permettre aux forces de l'ordre de savoir tout de suite s'il s'agit d'un produit légal ou d'un produit illégal.
En quelques secondes, Ludovic Mendès, qu'est-ce qu'on vous répond au ministère de l'Intérieur, tout simplement?
Pour l'instant, rien. On doit aller voir prochainement. On a échangé ce matin ce que disait avec la ministre des cas. On doit aller voir prochainement avec mes collègues Jean-Baptiste Moreau, Robin Reda et Caroline Janvier, justement pour échanger là-dessus. Et le plus grande peur, entre guillemets, pour l'Intérieur, c'est justement de ce développement du marché des stupéfiants et de se dire qu'aujourd'hui, la fleur de cannabis, quand on la pose sur une table, ça a la même odeur, ça a la même tête et que c'est assez compliqué, en fait, de pouvoir les différencier. Donc, il faut leur apporter un système qui leur permet de le faire facilement, rapidement et à des frais très faibles.
Merci beaucoup Ludovic Mendès, merci à nos autres interlocuteurs Aurélien Delecroix et Jean-Pierre Coutron, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Ce mercredi, vivez sur RFI, la soirée spéciale.